Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, des rediffusions pour prendre des nouvelles du Portugal. Aujourd'hui, un documentaire d'Alexandre Hérault réalisé par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a un jour de printemps 1974 et des brassées d'œillets, un 25 avril où tout redevenait possible après 48 ans sous le boisseau, 48 ans de peur et de contraintes. Une journée de 1974 où tout était à réinventer. Un printemps où les exilés sont rentrés et où l'on pouvait de nouveau chanter dans la rue et marcher tous ensemble au grand jour. Le Portugal a une longue histoire, proche et lointaine, alors il faut peut-être commencer par explorer Lisbonne pour renouer les fils, revenir loin en arrière et raconter l'esclavage et la colonisation à travers la ville noire qu'on oublie parfois et à travers les Lisboètes qui la portent. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur qui creuse le passé de la ville et celui de l'esclavage, une guide comme un fil rouge, le seul comédien venu de Sao Tomé, une mère qui a toujours raison, une rappeuse et une disparition. Ensuite, le décor. Un roman comme point de départ, le souvenir des bidonvilles, des quartiers aux esclaves, du racisme, le Taj, une méthode assimile, des générations d'exilés qui ont construit la ville moderne, des cités dortoirs, une jeunesse abandonnée, le Cap-Vert, l'Angola et des inscriptions sur les murs. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Lisbonne et il faut trouver un titre.
Lisbonne, dans la ville noire. Alexandre Hérault, Yvon Croisier. Une plongée dans l'africanité portugaise, librement inspirée du roman éponyme de Jean-Yves Loude. L'idée du titre s'est imposée tout naturellement, j'imagine Jean-Yves Loude comme un clin d'œil ou un pied de nez, je sais pas, au film de Tanner, dans la ville blanche, qu'il réalisa en 1982 et qui fait référence à l'intense luminosité qui emprunt les façades ocre de Lisbonne. On dit aussi de cette cité océane, occupant la pointe orientale de l'Europe, qu'elle fut fondée par Ulysse. Vous, Jean-Yves, ce ne sont pas ces deux aspects-là de Lisboa qui vous ont intéressé, mais bien une autre composante de cette ville, une composante si souvent oubliée, son métissage. Découvrir avec vous que Lisbonne est peut-être la plus africaine des villes européennes, non ?
Oui, les grandes découvertes sont parties de Lisbonne pour l'Afrique. Et moi, c'est l'Afrique qui m'a amené à Lisbonne. Travaillant sur le Cap-Vert depuis des années, et pour être sérieux, il faut faire des recherches sur les archives. Elles sont à Lisbonne. Arrivé à Lisbonne, bien sûr, je suis happé par la communauté capverdienne. Entre parenthèses, les Cap-Verdiens appellent Lisbonne la 11e île du Cap-Vert. Donc, le Cap-Vert, archipel de 10 îles, en a une de plus, Lisbonne. Et mes amis capverdiens me disent « Oui, oui, tu vois l'Afrique partout à Lisbonne ». Mais ne te fais pas de soucis, ça date pas des années 50, du siècle 20, au moment où Salazar voulait construire Lisbonne avec des grands stades, des avenues, des métros, où on a fait venir des immigrés qui n'étaient pas immigrés, ils étaient portugais à ce moment-là, où il y a eu une grande, grande venue de main-d'œuvre. Non, 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 la présence africaine à Lisbonne, elle remonte au 15e siècle. Et ça, on nous le dit pas à l'école, mais ça a commencé quand on a vendu le premier esclave aux enchères en 1445. Et à partir de cette date, la présence africaine ne s'arrêtera jamais. Les bateaux vont arriver de l'Afrique, de Saint-Thomé, de Cap-Vert, de la côte africaine, pour que les esclaves participent à l'économie de Lisbonne. Et on ne le sait pas, on ne l'apprend pas à l'école, ni en France, et malheureusement ni au Portugal. Eh bien, au XVIe siècle, et même au XVIIe siècle, 10% de la population de Lisbonne est africaine et noire. Et les noirs font tout. Ils s'occupent des forges, des mines, des marais salants, des docks, des pêcheurs. Ils sont domestiques à la maison. La voirie, ils nettoient les rues, ils vidangent les besoins de chaque maison. Ils vendent dans la rue les moules, les prunes. Tout, ils vendent, ils sont loués par les maîtres. C'est très rentable d'avoir des esclaves. Il y a une organisation incroyable. Il y a une rue qui s'appelle la Rua Atalaya, qui est en plein Bairro Alto, qui est aujourd'hui une rue très, très branchée. Mais là, il y avait des magasins d'esclaves. Il y avait des petites annonces d'esclaves. Mon esclave a fui, je donnerai temps pour le retrouver. Il y avait des entreprises, des familles qui nourrissaient les esclaves un peu trop maigres à leur débarquement. Ils les remplumaient pour qu'ils puissent être vendus sur le marché comme des animaux, comme des chevaux. Donc, voilà, j'ai découvert un sujet grâce à mes amis capverdiens, et là, je suis allé voir les livres.
Ouvrons votre livre. Dans quelques pages, un homme va partir pour Lisbonne. Il ne le sait pas encore. Il en est seulement à rabâcher la leçon 57 d'une vieille méthode d'apprentissage de la langue portugaise, garantie sans peine, sans douleur, sans sueur.
Oui, moi j'ai appris le portugais dans les méthodes avec les bandes, tout ça, où il y a toujours deux comédiens hommes, deux comédiens femmes qui se donnent la réplique. Et j'ai imaginé dans la fiction, pour justement donner une tension policière au livre d'enquête, j'ai imaginé que dans ma méthode d'apprentissage fictionnelle, hein, je répète bien, une des voix féminines disparaissait. Le héros, en attente de son départ au Cap-Vert, reprend sa méthode. Il arrive à ces leçons difficiles où il y a du subjonctif. Il sait depuis très longtemps que la voix féminine disparaît à la leçon 76. Il veut savoir pourquoi et ça devient essentiel. Il prend son avion pour Lisbonne et il est à la recherche de cette voix disparue. Il va apprendre très vite de l'éditeur que cette comédienne était une jeune femme capverdienne, noire, brillante comédienne, mais qui avait une obsession. Elle voulait qu'à la leçon 76, après la leçon 75 dédiée aux grandes découvertes, il y ait une leçon dédiée à la présence des Africains à Lisbonne. Et le vieil éditeur a dit « Ah non, c'est pas une tribune politique, ma méthode d'apprentissage, je refuse, la claquer la porte, elle a disparu, on ne l'a plus jamais revue. » Alors le départ du livre, oui, est fictionnel. Justement parce que cette présence africaine devrait être connue par tout le monde. Or, elle ne l'est pas. Et donc, j'ai imaginé ce personnage féminin qui, elle, a passé son temps de passionnariat à récolter toutes les informations sur cette présence noire depuis 5 siècles, silencieuse, passée, invisible, presque une sorte de mémoire assassinée. Donc, voilà, j'avais besoin que dans une ville d'Europe, il y ait une sorte d'action, qu'un homme cherche une femme qui a un trésor. Ce trésor, c'est la connaissance. La connaissance de quelque chose dont on ne veut pas parler parce que la mémoire gêne.
Paula Nascimento, pour cette étape, dans notre itinérance portugaise, il ne faut rien dissimuler. On ne peut pas le dissimuler, ce choix d'avoir à étudier les traces de l'Afrique dans Lisbonne provient du livre de Jean-Yves Loud et l'écrivain voyageur ethnologue qu'il est, dans ce récit de voyage, a parcouru la ville noire, à la recherche d'une hypothétique figure féminine ayant disparu. C'est comme ça que s'ouvre son récit. Et il m'a dit, avant de partir, pour avoir les clés, tu comprendras mieux si tu vas voir Paula. Vous nous avez vus arriver, débarquer ici, dans cette capitale qui est la vôtre, et soudainement vous êtes effectivement devenu le guide, celle qui montre le chemin.
C'est le chemin de l'apprentissage, du partage, de l'information, des liens et de la connexion.
La connexion entre qui et quoi ?
Entre tout qu'on peut mélanger et qui peut produire un très bon résultat final.
Alors cette africanité à découvrir, cachée, qui voir, qui rencontrer, où aller ?
D'abord, il faut avoir beaucoup de chance. Des fois, pour trouver des bonnes personnes quand on ne connaît pas, qui nous emmènent à des endroits. Dans ces endroits, on trouve d'autres personnes qui nous amènent à d'autres endroits. Et ça se fait petit à petit. C'est comme ça.
Alors cette déambulation que vous allez effectuer dans ce roman, dans cette quête, nous conduit donc sur les traces à la fois historiques mais encore géographiques de cette africanité, de cette présence africaine, mais bien sûr aussi à rencontrer toute une série de personnages très contemporains, représentant chacun toutes les nombreuses communautés. Et Jean-Yves Loude, j'aurais tendance à dire les communautés plus que la communauté africaine.
Oh, bien sûr, les communautés. Les Capverdiens sont les plus nombreux, mais il y a aussi les Saint-Thoméens de l'île de Saint-Thomé et Principe, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique. Mais si j'ai inventé ce personnage féminin, c'est qu'elle existe pour moi dans la société actuelle. C'est qu'elle ne se bat pas seulement dans l'histoire, elle veut aussi essayer de communiquer sa passion à ces nouvelles générations qui, eux, sont nés de ces pays lointains, de parents émigrés, et qui, eux, sont... Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont comme les nouvelles générations chez nous, hein, et ils sont pas capverdiens parce qu'ils sont pas nés au Cap-Vert, ils ont les parents capverdiens, ils parlent créole à la maison, ils arrivent pas à s'intégrer à l'école, ils sont mal dans leur peau, et ils sont dans des quartiers périphériques qui, jusqu'à présent, il y en avait beaucoup qui étaient assimilables à des bidonvilles, j'en ai visité, alors... Paradoxalement, par exemple, celui de Ashmariana, j'ai passé des dimanches dans ce bidonville en train d'être détruit. Dans la partie à moitié encore vivante et l'autre était sous les pelleteuses. C'était absolument hallucinant. Et alors, il y avait une sorte d'horizontalité dans ce quartier, bien sûr fait de briques et de brocs, dans les deux sens du terme, de briques et de tôles, mais où les gens avaient une convivialité qui leur permettait d'avoir des jardins, d'avoir du maïs, d'avoir des légumes, et puis de se recevoir, de faire des fêtes, de mettre la cachoupa, le plat national capverdien à base de maïs et de viande de porc, en commun. Et quand ils m'ont invité là, ils m'ont dit « Ah là là, on va quitter cette horizontalité, on va nous mettre dans le vertical, nous disperser, sous prétexte d'intégration. » Mais nous, on n'a pas besoin de se retrouver dispersés, au contraire, on va être dilués, on va perdre notre âme, alors que là, on la gardait, puis cette différence, elle apporte quelque chose à ce pays.
On sait aujourd'hui, les statistiques arrivent à nous parler de cette présence. Comment et quand, d'abord, a-t-elle commencé ces Africains issus des anciennes colonies que vous avez évoquées, Jean-Yves Loude, sont arrivés nombreux au moment de l'indépendance de leur pays réciproque après 1974, après la révolution des œillets.
Non, non, les Capverdiens sont arrivés bien avant. Ils sont arrivés pour la construction des infrastructures de Lisbonne et notamment dans un quartier qui est assez central près de l'Assemblée nationale qui s'appelle San Bento et qui aujourd'hui encore porte le nom de Triangle Créole. Ce quartier est très intéressant parce que là, il y avait les foyers d'accueil, les petits hôtels. Et aujourd'hui encore, quand on se promène dans ce triangle de San Bento où passe la fameuse ligne 28 du tramway, il y a des petits cafés capverdiens, il y a Una Ser do Sol qui est Rua Poço dos Negros, qui veut dire la rue du Puits du Nègre. Donc si l'inscription de l'Afrique n'est pas même sur les panneaux, elle est vraiment visible. Puits du Nègre, c'est le grand roi Don Manuel qui, au début du XVIe siècle, a ordonné qu'il soit creusé parce que les esclaves non baptisés, alors qu'ils devaient être baptisés, les esclaves non baptisés, on les jetait sur des tas d'ordures. Les chiens venaient manger ça, ça puait, ça entraînait des maladies. Et c'est Don Manuel qui s'est inquiété, qui a ordonné à la ville de Lisbonne de creuser un puits pour mettre les cadavres, mettre de la chaux en permanence. Et ce nom est resté rue du Puits des Nègres. Et c'est là, justement, que ont officié les premières mamans qui ont fait la cachoupa pour les soirées musicales. C'est là que les premiers capverdiens, comme Bana, comme Tito Parish, tous les musiciens, jouaient la nuit. Je crois que les capverdiens ont donné le sens aux nuits de Lisbonne. Et tous les Portugais qui ont un sens de l'autre, qui ont envie de d'autres horizons, ont immédiatement pactisé, se sont créolisés dans leurs habitudes alimentaires et musicales. C'est là que ça a commencé, à San Bento, dans les années 50-60. Aujourd'hui, la visibilité chromatique de l'Afrique, elle est évidente. Mais aujourd'hui, on ne voit pas à la télévision, on ne voit pas dans les théâtres, dans le cinéma, dans la culture, la représentativité normale, proportionnelle au nombre d'habitants africains de Lisbonne. Un bon noir reste un noir dans les chantiers.
Angelo Torres, j'ai envie de transformer l'acteur en professeur de géographie, mais très brièvement. Quand on pense à la communauté ou aux communautés africaines ici, souvent on a en tête évidemment l'Angola, la Guinée, le Mozambique, le Cap-Vert, puis on oublie le Brésil, et puis on oublie l'île dont vous êtes ressortissante, où vous êtes originaire, Sao Tomé et Principe, les deux îles.
Oui, parce que c'est trop petit, deux petites îles, qui sont des Vangabon dans le golfe de Biafra, golfe de Guinée. C'est deux petites îles avec petit, il n'y a pas beaucoup de population au Sao Tomé et Principe.
Ceux qui ne l'oublient pas, ce sont ceux qui voyagent là-bas, qui ont la chance de voyager là-bas comme touristes, puisqu'il paraît que c'est un paradis.
C'est un paradis, oui, oui. Pour moi, c'est la. Il a des 10 merveilles du monde. Saint-Tomé, il est dedans. Ouais, c'est très, très, très joli. Saint-Tomé, c'est joli, mais le Principe, c'est ouais, génial.
Mais pourquoi il a fallu les quitter?
Pourquoi, certainement? Pourquoi? Tu sais, je sais que Saint-Tomé a les mêmes problèmes que tous les pays africains. Et ça fait que beaucoup de gens, jeunes africains, Africains comme moi, sortent de l'Afrique pour chercher, pour voir une possibilité pour sa vie, non? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes en Afrique.
Et peut-être aussi, Angelo Torres, pour rester sur votre cas personnel, je ne sais pas quand vous avez décidé d'endosser cette carrière d'acteur, mais peut-être que Sao Tomé et Principe seraient devenus un trop petit théâtre pour vous.
Oui, je crois que moi je suis le seul comédien de Saint-Tomé. Oui, ici au Portugal, c'est moi seul. Et même au Saint-Tomé, je suis la seule personne qui travaille et vit pour le théâtre.
Le seul problème, Angelo Torres, c'est que vous n'êtes pas non plus beaucoup à être acteur et à être issu d'une des communautés africaines ici. Non. Ça se compte sur les doigts de la main?
Oui.
Ah oui. Ah oui.
Quand j'ai fait la décision, moi je vais faire le théâtre, ma maman m'a demandé, attention Angelo, tu rêves pour ser comédien ici au Portugal? Je dis oui, pourquoi non? Mais regarde. Je dis oui, je regarde quoi? C'est un pays de blancs et toi tout c'est noir. Comment tu fais l'intention de ser comédien? Ah non, parce que si je suis bon acteur, personne ne va voir ça. C'est un bon comédien, on va le contacter parce qu'il est un bon comédien. Mais malheureusement, ma mère, il a des raisons. Ouais. Beaucoup de fois, personne me demande ici, il n'y a pas beaucoup de rôles pour les comédiens noirs. Et moi, je dis attention, mais pour faire un opéra soap, un telenovela, quand tu dis il a en police, un voleur, un médecin, un ingénieur, un. Pourquoi moi je peux jouer ce rôle? Il faut qu'un mec se rappelle et mettre entre parenthèses noir. Et quand il met noir, il faut chercher un comédien noir pour faire sa rôle. Beaucoup de personnes m'ont dit, tu parles beaucoup, si tu parles moins, peut-être tu travailles plus. Parce qu'ici au Portugal, j'y travaille beaucoup dans le cinéma, mais tous les fois, petit rôle. Et moi, j'ai demandé, quand une personne me demande qu'est-ce que tu sais, moi, je dis, je suis un comédien mauvais. Parce que s'il n'y a pas de rôle pour moi, parce que je ne suis pas bon. Si j'ai commencé à penser, moi, je suis très bon comédien, mais je ne travaille pas, je viens folle.
Parce que donc, vous êtes obligé d'intégrer un processus d'autodépréciation,
ouais,
pour supporter le fait qu'effectivement le travail n'est pas là et cette visibilité,
ouais,
est toujours pas d'actualité.
Oui, si tu veux, regarde mon curriculum, non, il y a beaucoup de films ici.
Il y a une vingtaine de films.
Mais si tu sors à la presse portugaise, il n'y a pas mon nom là. Jamais il parle sur moi. Et la semaine dernière, un espagnol me demande, il faut que tu me trouves ton dossier d'impresse pour mettre ta dossier. Pour... Ah, je dis, ok, mais je n'ai pas de dossier de presse. Il me dit, mais c'est pas possible, tu fais beaucoup de films, pourquoi tu n'as pas de dossier de presse? Parce qu'au Portugal, la presse ne parle pas sur moi.
C'est même pas uniquement de la relégation, Angelo Torres, c'est une véritable occultation.
Ouais. C'est la fameuse présence invisible de l'Africain ici. Mais si tu vois, je crois que Lisbonne, c'est la première capitale d'Europe qu'il y a des Noirs ici. Ça fait 4 siècles que les Noirs habitent ici au Portugal. Mais tu ne vois pas. Bon, tu vois dans la rue, tu vois, mais dans les journaux, la radio, la télévision, on n'y a pas de représentation. Il y a beaucoup d'écoles ici, autour de Lisbonne, que tu vois de 40 à 60% des élèves d'origine africaine. Quand tu donnes les passes par les 10 à 14...
Quand on passe au secondaire.
Le secondaire, ça descend pour 15, 20, 25.
Moitié-moins.
Moitié-moins, oui. Pour entrer dans l'université, 4, 100%.
Plus personne.
Plus personne, oui.
Jean-Yves Loud, on s'apprête à traverser le Tage. On est sur l'un des embarcadères de la gare maritime du Cais de Saule, que l'on baptisait, je crois, et vous le racontez dans votre ouvrage, le quai des Négresses.
Oui, oui, bien sûr, le quai des Négresses, parce que Cais de Saule, ou maintenant connu pour ses gares d'embarquement fluviales et ferroviaires, c'était là que les vendeuses louées ou propriétaires des grands marchands venaient vendre la nourriture en criant, en piaillant. Ça faisait un tintamarre de tous les diables. C'était un concert, une symphonie d'appels, de réclames pour les produits qu'elles vendaient. Donc on l'appelait le quai des Négresses.
Pour l'heure, il n'y a plus personne sur le quai. Tout le monde est embarqué. Ça couine un peu sur le pont devant l'un de ces bateaux qui établissent incessamment la liaison avec l'autre rive, la rive sud du Tage. On se rend, Jean-Yves Loud, à Seychelles. Autant vous dire que mon guide touristique ne m'en dit pas long sur cette ville dortoir.
Alors, des villes dortoir comme ça, il y en a beaucoup. Moi, je suis surtout allé à Barreiro parce que je cherchais justement, dans les dédales nocturnes de ce quartier, je cherchais une scène de théâtre pour voir un spectacle créole qui s'appelait Dandao, Donnant Donnant. C'est magnifique parce que c'est ça. Pour ceux qui font vraiment les efforts d'échange, Dandao, ça veut dire tu me donnes et je te donne. Ça devrait être ça le sens de notre vécu entre les étrangers qui viennent chez nous et qui nous apportent autre chose que notre propre histoire. Alors, on appelle Outrabande, c'est l'autre rive. Les travailleurs viennent, se précipitent par les bateaux et viennent et arrivent à la gare fluviale du Rossio. De la Praça de Comercio. En même temps, les travailleurs des lignes du nord, de toutes les banlieues nord, arrivent à la gare centrale du Rossio. Et c'est extraordinaire, le matin, tout comme le soir, de voir cette population de travailleurs pressés qui se croisent au plein cœur de la ville, le Rossio. Et là, la visibilité chromatique est invraisemblable. Et tout le monde rentre chez lui avec des temps de trajet terribles, le bateau, le train, les bus de l'autre côté qui partent, se dispersent dans des banlieues qui ne sont pas quand même très, très alléchantes, quand même très sympathiques parce que ça a été construit très vite. Et il y a tous les problèmes, effectivement, des nouvelles générations qui sont là, qui rouillent au bas des immeubles. Ça, c'est commun à toutes les villes d'Europe qui ont eu un passé colonial et qui n'ont pas tenu compte d'une chose très importante, qui sera notre avenir, la valorisation. Il y a une phrase en portugais qui s'appelle « dar valeur, donner de la valeur. Voilà, c'est un monde que l'on a laissé pousser et croître sans le regarder et sans prendre en considération les cultures extraordinaires que ces gens véhiculaient, venaient nous apporter, avec qui on aurait pu construire quelque chose.
Sempre na controle, sempre no movimento da pesada. Toma cuidado contigo, senão eles te matam. Tu sabes que a boa fita aqui é para... Paf, não quero.
Paula, on synthétise. Qu'est-ce que vous nous avez chanté, là?
Chanter le rap.
Oui, ça j'ai entendu, mais qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai dit que le rap, là, pas fait attention à la police, parce que la police, elle fait comme ça. Elle fait bêtise à la personne.
Quoi, c'est les policiers qui font des bêtises ou c'est les personnes qui font des bêtises?
Les personnes qui font les bêtises.
En face de nous, il y a marqué quoi?
Police skinheads. Fuck the police. Chibush. C'est très bien ici, c'est très joli là-bas. À côté de ma maison, toutes personnes vont là, à côté de ça. Bam, 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 bam.
Choulage, il y a un peu plus de 10 ans... Un jeune réalisateur ici, d'origine angolaise, et faisait un documentaire qui a été projeté sur la télé nationale ici, et dont le titre c'était « Le rap est une arme ». C'était il y a 10 ans.
Aujourd'hui c'est plus fort.
Si avant, l'arme c'était juste un pistolet, maintenant c'est vraiment une bombe. Et les gens, ils ont peur de cette bombe.
Yeah, parce que nous faisons éducation, consciencialisation, mobilisation.
Ce qu'on fait là en ce moment, c'est qu'on fait l'éducation, la consciencialisation et la mobilisation à travers le rap.
Non informarem daquilo que se passe à volta delas. Et nous faisons isso com o rap.
Como o Chuck le rap, disse, o rap c'est la CNN du ghetto. On commence à créer les moyens d'être autonomes et là maintenant ils ont peur parce qu'on commence vraiment à grandir.
Ils ont peur, Choulage, quoi que ce que vous nous avez décrit comme étant toutes ces villes suburbaines autour du centre de Lisbonne, un jour convergent vers ce centre et s'en emparent et que Lisbonne devienne noire.
Também, também.
Portugal a un peu peur de ça, mais c'est une fausse crainte.
Parce que les Noirs en Portugal veulent leur lugar.
Les Africains, on ne veut pas les places des autres. On veut notre place dans la société. Et la question, c'est qu'ils ne nous acceptent pas comme Portugais. Sinon, la question, elle ne se poserait pas.
Parce que nous ne sommes pas ici pour tomber la
place de personne. On veut être comme tout le monde.
Em todos os lugares.
Tous les endroits.
Físicos, sociais, estás a ver? Institucionais, profissionais, tudo.
Institucionais, profissionnels, tout.
Nós não nos guetizamos.
On ne se guetise pas et on ne veut pas que les autres le font.
Estás a perceber? Tu comprends? Yeah. Tout le quartier de Lisbonne, ils avons une grande histoire. Et
il y a une grande histoire dans les quartiers de Lisbonne
que l'Europe ne connaît pas, tu vois. L'Europe connaît Lisbonne, la Lisbonne de Baixa, la Lisbonne du château de Saint-Georges.
Du pont du 25 avril.
Exactement. L'Europe ne connaît pas la Lisbonne noire, qui c'est en Lisbonne, qui faz parte do resto de Lisboa, tu vês?
Que c'est aussi Lisbonne.
Nem é uma outra, é também é essa que se cruza. Já nem
c'est la même Lisbonne, mais où les gens se croisent.
Mas que
le système insiste en faire croire que c'est une autre.
Et la ségrégation, elle se fait, cette ligne de partage, elle est aussi dans la tête, mais elle est aussi un peu physique.
Si, elle est physique demain, parce que tu vois le il y a au centre.
Il y a le centre.
Il y a toute la périphérie.
Il y a tout ce qui est autour.
Nous ne sommes pas heureux, tu vois, ici.
Les gens ne sont pas heureux.
Il y a beaucoup de problèmes. L'habitation, l'argent, pas de travail pour la jeunesse et la jeunesse noire. L'école, tu vois, le programme de l'école, le programme du État pour nous, c'est ethnocentrique.
Ethnocentrique.
Tu vois. Et violence policière, c'est la police. La police est très agressive avec nous. Sans justification, tu vois, ils sont racistes. Tu vois, ici, il y a du PNR, qui c'est comme la Front National en France, de Le Pen. Et maintenant, ils sont à faire un discours.
Un discours.
L'immigration, ça semble... immigration égale au crime.
C'est l'immigration égale au crime.
Égal à toutes les pragas sociales qui existent.
Donc tous les problèmes sociaux qui existent, ils associent à l'immigration.
À mon stéréotype.
Beaucoup de stéréotypes.
À notre volte,
il y a tout ça qui nous empêche de faire notre vie, donc l'accès au travail, l'accès à l'université, aux études et à la vie.
Passa em direção ao mic e toda a área eu paraliso. Primeiras rimas pulverizo e audiências mato notícia. Aqueles que me chamam fake pelo que visto, eu traumatizo. Tô nisto a bem usar a roupa para me afirmar, eu não preciso. Sempre que eu dou ciência, tua aparência ridiculariza. Contra a ignorância, resistência de consciência. Neutraliza, absente inteligência, negligência. Insistência e mobilizo, não há hipótese de sobrevivência. Fake niggas, hostilizo com fake niggas. E valide, fake som não equalizo. Tô cabeça tua, cruz, teu movimento, eu destabilizo. MCs não têm acesso ao vocabulário que eu utilizo. Então uso as minhas rimas, tipo eu disse e autorizo. Trabalha com o meu trabalho, um dia pisas quando eu piso. Tento quando eu escrevo, não é pedico, eu sincronizo. Põe o vídeo ao mesmo sentido, caneta e cabeça, sincronizo.
Moi, ce qui me motive, pourquoi je pars en voyage, souvent pour témoigner d'histoires douloureuses, au Cap-Vert, à Saint-Thomé et à Lisbonne, dans les quartiers dits périphériques, c'est de témoigner de la puissance de création des perdants de l'histoire, ou des vaincus, ou des douloureux de l'histoire. Et je me suis aperçu avec soulagement que les épreuves incitaient à la création. Alors, effectivement, les femmes du Cap-Vert, elles entretiennent la tradition, comme le Batou, Koutout, elles amènent leur richesse, elles la reproduisent à Lisbonne. Mais il y a les jeunes de la nouvelle génération qui, eux, font des synthèses audacieuses. Le premier que j'ai rencontré, le pionnier du rap à Lisbonne, il était très connu sous le nom de Général D. C'est un homme qui m'a impressionné. Un jeune garçon qui a découvert qu'il pouvait avoir de la valeur en lui, qui a cherché au début de sa vie à se blanchir avec des crèmes, à écouter du hard rock, Iron Maiden, à essayer de sortir avec des filles blanches pour faire oublier qui il était, parce qu'on ne l'aimait que quand il avait une balle au pied et qu'il était sur un terrain de foot. Autrement, il n'avait pas de valeur. Et puis un jour, les professeurs étaient toujours à lui renvoyer la figure que l'Afrique n'avait rien inventé, n'avait produit aucune histoire. À force de ressasser ça, un jour il s'est mis à lire et il a découvert la grandeur de l'histoire de l'Afrique. Ça s'est remué dans sa tête, il est allé voir les femmes qui maintenaient la tradition dans les quartiers périphériques, il a vu les femmes du Batouk de Cova d'Amour, un quartier périphérique peuplé de Cap-Verdiens, et il s'est dit, voilà, c'est ça que je dois exprimer. À quoi ça sert d'être en colère si je ne le transforme pas en une matière vivante pour les autres. Il a inventé le rap, mais alors attention, son rap était coupé des influences new-yorkaises, des noirs new-yorkais. Lui, il a dit, moi, je viens d'une culture où il y a le funana, où il y a le batouk, où il y a la musique angolaise, la musique mozambicaine. Et il a pris ses pulsions africaines et il a plaqué dessus l'énergie rap avec des mots de colère qui étaient propres à la scène vivante de Lisbonne. Juste un mot pour dire que cet homme a eu du succès, qu'il est rentré dans une majeure compagnie, que toutes les stars du Portugal voulaient être photographiées avec lui, et que tout d'un coup, il s'est dit, mais là, je suis en train de perdre mon âme. Je suis en train de... On me récupère. L'homme en colère, on est en train d'en faire un gentil partenaire de la vie culturelle et du confort des Blancs qui boivent du jus de mangue ou vont passer leur été aux Seychelles en disant « Oh, j'aime trop l'Afrique ». Alors il a dit « Stop, stop ». Et avant de fournir, il a cassé son contrat, il a quitté la scène, il était à la télévision tout le temps. Il a dit « Si on va demander une scène à la mairie de Lisbonne, c'est pas pour sur cette scène ». Crier contre la mairie de Lisbonne. Il faut que je retrouve mon indépendance et je vais produire moi-même. Il s'est fondu, il a disparu, mais pour ce courage-là, respect au général D.
Une autre frontière, Jean-Yves Loud, marque les périphéries du Lisbonne historique. C'est pas le Tage, mais les immenses ceintures autoroutières. Et c'est par le train, vous, en empruntant la ligne de Sintra, que vous vous rendez au milieu de votre déambulation dans ce que vous baptisez les autres quartiers, la face cachée de la belle, le cul de Lisbonne, un quartier que Lisbonne cache dans son dos, Cova da Moura. Je lis. Cova da Moura était il y a quelques décennies seulement une aire d'horticulture. La ville l'a rattrapée, les maisons précaires des immigrés ont réduit les champs, effacé le souvenir de l'origine du nom. Le quartier s'étage sur une colline, passé l'avenue qui longe la voie ferrée, on entre bien au Cap-Vert. En guise d'intégration au pays d'accueil, il s'agit ici d'une extension de la République d'origine. Les maisons ne subissent aucun alignement, les rues sont décousues, comme si une musique un peu dingue faisait danser les constructions. Mais cette fantaisie urbaine a peu de rapport avec l'âpreté des destins charriés par le courant des migrations. Nous grimpons vers les hauts du quartier. La rue centrale doit accuser une pente de 12% au moins. Un gamin la descend sur la roue arrière d'un vélo à toute vitesse, évite de justesse une camionnette qui fatalement débouche d'une rue perpendiculaire et glisse vertigineusement jusqu'à l'avenue périphérique, au pied de la cova. Trois adolescents profitent de notre ébahissement pour nous enserrer. L'un d'eux met franchement la main dans ma poche, un autre s'en prend à la sacoche de Vlad. Décharge d'adrénaline, réaction des aînés, gronde dans le coin. Les ados décrochent. On nous enjoint de passer à Cova, estrangero fuera, étranger dehors. Vous jouez avec une réalité qui est celle, évidemment, de ces quartiers qui ici on dit difficiles, où la présence de l'autre est tellement peu, enfin de l'autre, de ceux qui n'y sont pas, qui n'y ont pas grandi, est tellement rare qu'elle est remarquée, Jean-Yves Loud.
Oui. Heureusement, et dans ces quartiers-là, il faut être introduit. Il faut aller avec un ami, un Cap-Verdien. C'est des territoires qui ont été reconstitués. On veut pas de nous, mais là, on a réussi à gagner un espace.
Bon, c'est bien le terme. Hein.
Oui. Ben, l'autre, il doit aussi montrer ses efforts. Alors, c'est vrai qu'on nous a testés, on nous a fait des décharges d'adrénaline. Et même notre ami capverdien, Vladimir Monteiro, qui est un grand journaliste capverdien, et il a fallu, pour aller au fameux lieu qui s'appelle Moinho da Juventud, qui est le cœur social et culturel de ce quartier périphérique, et il a fallu montrer patte blanche. C'est le Cap-Vert, mais c'est le Cap-Vert avec les jeunes générations frustrées aussi. Donc c'est pas tout à fait le Cap-Vert, c'est un autre lieu. Alors, à Cova da Moura, quand on est accueilli et quand on est attendu, on peut être invité à des fêtes, et c'est là qu'on retrouve toute l'âme des peuples qu'on aime et qu'on voudrait voir généreusement partageant leur culture avec nous.
Miguel Horta, si je déplie un plan général du Grand Lisbonne, de l'agglomération qui s'étend de plus en plus, de ces périphéries qui apparaissent sur cette grande carte, on se rend compte que le centre historique de Lisbonne, si joli, bien fréquenté par les touristes quand même,
près du fleuve, oui.
Oui, aux bordures du Tage, s'étend énormément, que l'agglomération maintenant compte plus de 2 millions d'habitants, je crois. Et là, aujourd'hui, évidemment, quand on doit s'intéresser un peu à rencontrer les représentants des différentes communautés africaines, il faut sortir du centre de Lisbonne, souvent.
Oui, oui. Le vrai cœur africain, c'est vraiment dans les banlieues, et ici sur notre quartier, Cova da Moura.
Alors, on est où
dans au nord. Voilà, Carnide. Voilà,
Benfica ici.
Benfica, le stadium de foot. Ouais, voilà, au nord.
Donc il y a tout un entremêlement d'autoroutes.
Oui, le stadium de Benfica, c'est ici.
Oui.
Et esta é a avenida
Luz.
Norton Match, ok.
C'est une zone qui s'est.
Donc... C'est là, ici, voilà. Oh. Voilà, le quartier, c'est ici.
D'accord.
Si tu vois. On est à Lisbonne en 5 minutes, oui. Au centre, en quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est incroyable. Hein. Et à mon avis, Cova da Moura doit être en Europe, peut-être le plus africain de tous les quartiers en Europe.
Mais alors, est-ce qu'ils habitent en cohabitant? Non, ici c'est un quartier où on est en Afrique.
Oui, oui, bien sûr, absolument. Oui. Il y a quand même une toute petite communauté qui reste de Castredal, du nord du Portugal, qui sont ici dans une rue qui a même le nom de Rua de Castredal, qui sont la première migration des gens pauvres du nord du Portugal, qui aussi ont entré dans ce mouvement d'autoconstruction. Construire sa propre maison et son...
Donc tout s'est construit
tout, oui, c'est tout construit par les gens et pour les gens. Voilà.
Mais ça veut dire qu'il y avait un relatif abandon de tous les services publics, qu'il n'y avait ici rien.
Au commencement, pas d'eau, pas d'électricité. À cette époque-là, c'était une montagne, un monde.
Un petit mont.
Un petit mont avec
petite colline.
10, 11, 12... maison, et après a grandi. Il y a 20 années, ça a commencé. C'est l'âge de l'association. C'est l'âge de Mouine, a fait 20 ans.
Moulin
c'est
de la jeunesse.
Le moulin de la jeunesse. Oui. Mouine de Juventude, moulin de la jeunesse. Et je crois que toutes les civilisations ont commencé par le pain, et que ce que l'humanité donne les mains entre des différentes nations autour d'une table avec du pain.
Et aujourd'hui, le pain, il a quel goût, alors? On en est où, 20 ans après?
C'est une question que c'est pas à moi que tu vas la poser. Tu vas poser à Liv cette question, à Edouard.
Aux habitants?
Oui, à Edouard, que voilà qu'il il arrive. Là, Edouard. Boa tarde. Le fondateur.
Ah,
oui. Comment est-ce que t'as au teu français? Ça va, ton français? Tu parles bien le français?
Très malade.
Vous avez la grippe, vous aussi?
Je parle français.
Alors, vous lui posez la question, peut-être. Le goût du pain, aujourd'hui, produit du moulin.
Dávamos de volta da metáfora do moinho que produz a farinha e o pão. Qual é a metáfora que esteve na origem da escolha do moinho da juventude?
Há uma divisa em Cabo Verde que é o junta-mão, juntar as mãos.
Cette expression, c'est fondamental ici au quartier, c'est junta-mão. Juntement, ça veut dire en français, on donne les mains pour faire quelque chose ensemble. C'est un sens communautaire très fort, et c'est la phrase ici à l'association. C'est vraiment donner les mains et faire quelque chose ensemble. Et voilà quelque chose. Après 20 ans, on a une bibliothèque, école, atelier pour les jeunes, la maternelle, l'appui de mère. Le sport, le groupe sportif, voilà. Ça a commencé par la bibliothèque.
Oui. La bibliothèque infantile, l'infanto-juvenil.
La bibliothèque d'enfants, infanto-juvenil. Il ne pouvait pas prendre un livre dans la bibliothèque parce que l'adresse, c'était en
quartier qui n'existait pas pour les gouvernements et pas pour les gens. Comment est-ce que tu vas demander un livre dans une bibliothèque ?
Sur un quartier qui n'a pas quartier. D'existence légale.
Exactement. Voilà.
Et aujourd'hui, le statut alors de Cova des Moura.
Illégal. C'est un quartier illégal, toujours.
Les terrains sont particuliers.
Les terrains, ils ne sont pas... C'est complètement clandestin, ça.
Bon, Jacques Baird era um bairro esquematizado. As pessoas, embora não conheçam, tinham uma imagem que lhes eram dada através da comunicação social. Quer dizer, um reduto criminoso, fechado sobre si. E isto é uma oportunidade que o bairro tem de mostrar realmente uma riqueza que tem um acolhimento fraterno, uma cultura própria, que é muito rica e que efetivamente tem. Temos tido centenas de pessoas que têm vindo através desse programa visitar o bairro e tomar conhecimento da realidade do bairro. Mas tem sido bastante positivo para alterar a imagem que as pessoas têm do bairro.
Il y avait une stigmatisation totale que l'association combatte à ce moment-là. Ça, c'était un quartier de criminels, avec des voleurs, etc., la drogue, tout ça, et les gens avaient peur, etc. Avec ces programmes d'ouverture, on a des milliards de personnes qui visitent le quartier.
Des milliards.
Et tout ça, c'est pour changer cette idée que la presse et la télé ont fait du quartier. Il faut continuer cet effort, à mon avis.
Parce que Eduardo lui-même a dû, à un moment donné, certainement lutter contre ces images, mais ces images provenaient d'une certaine réalité. Moi-même, qui me suis un peu renseigné en allant sur Internet, on trouve facilement des traces de règlements de compte ici, entre bandes rivales de morts par balles. Et ces histoires-là, c'est évidemment celles que la presse donne en pâture plus facilement. C'est ça qu'on souligne.
Toute cette information qui est donnée est sélectionnée. Quase são coisas que acontecem frequentemente nos mais diversos sítios e menor que não é aproveitado para caracterizar esses bairros, essas regiões, essas cidades, não
é? Des choses comme ça que tu as vu sur l'internet, eles arrivam em plusieurs quartiers et ici Edouard a utilisé le mot, ils sont sélectionnés. Si tu as un très bon terrain, c'est très important pour un spéculateur que l'image du quartier soit noire. Tu comprends? Mais c'est pas vrai. Tu peux voir, j'ai ma voiture ouverte. J'ai tous les livres dedans, personne n'a ouvert ça. Mais ils m'ont volé déjà ma voiture dehors de ce quartier plusieurs fois.
Ça va prendre encore combien de générations pour que cette mentalité-là change. On a l'impression parfois, puisqu'on se rend compte que même le débat sur ce qu'on appelle en France, ça vient des États-Unis, bien sûr, la discrimination positive ou cette politique de quotas qu'on peut avoir pour que cette minorité africaine soit visible, n'existe pas encore en termes publics, en termes de débat de société au Portugal.
Bon, c'est une des meilleures concentrations des africains en Portugal. De manière que va être preciso transformer la mentalité des portugaises. E tudo dependerá disto, não é? A maneira como aceita o confronto com outra cultura.
Ici, c'est la plus grande concentration de culture africaine au Portugal. On a besoin d'un très, très grand effort pour changer ça. Ça dépend, comme la culture portugaise, originale, va réagir à ce confront de culture. Mais à mon avis, c'est-à-dire, on n'a pas de raison, en pays dont on parle une langue universelle, que c'est le portugais, un pays avec toute cette tradition maritime et tout ce prestige que les gouvernements offrent de notre histoire, je pense que c'est le moment, beau tard. C'est le moment de changer la mentalité. Tu as dit une phrase fantastique que Cova de Moura, c'était l'île qui manquait au Cap-Vert.
La 11e île du Cap-Vert.
Non, c'est très intéressant.
C'est la 11e île du Cap-Vert.
C'est très intéressant, ça. Moi,
Et ce que nous dit Eduardo, c'est que c'est devenu la première île du Cap-Vert.
À ce moment-là, c'est la première île, clairement. Et l'île dont on a les habitants de toutes les îles. de toute la tradition du Fogo, le café du Fogo, le Funana de Santiago, le bon grog de Saint-Antoine, le colas de Saint-Vicente, le sel du sel, les potiers de Boa Vista. On a tous ici dans sur cette île fantastique.
As bandeiras, mas as bandeiras têm uma origem nos senhores locais, não era? Os cavalos e os... Sim, aqui não é essa burguesia.
On n'a pas...
C'est une brise.
On n'a pas ici la noblesse. Mais quand même, les gens ont une très, très grande noblesse. Ça, c'est la dignité. C'est la plus grande noblesse qu'un peuple détient, à mon avis.
Et pour la voir... s'exprimer, peut-être qu'il suffit pour nous de monter ces quelques marches.
Oui, c'est bien de monter, oui, ça va commencer, oui.
Et d'entendre,
oui,
et de voir.
On y va, et de poser des questions sur le bateau à ces femmes. À tout à l'heure.
J'aime le batouk, spalmodiez-vous Jean-Yves Loud dans votre livre.
Alors le batouk est une expression purement capverdienne, c'est une expression féminine. Autrefois dans les îles du Cap-Vert, où les esclaves noirs ont été déportés, le tambour portugais, le tambour, a été interdit. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur que le tambour ramène les ancêtres, le culte des morts, le lien avec les génies d'Afrique. Tambour interdit. Les femmes ont dit qu'à cela ne tienne. Elles ont pris les pagnes qui en serraient leurs hanches, les ont roulées entre leurs cuisses et se sont mis à battre deux sur dessus. Alors une femme qui bat un pagne en tissu, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais 20, 25, ça commence. Et sur cette percussion, les femmes, à quelle époque ? 17e, 18e siècle, on ne sait jamais quand une musique clandestine naît au Cap-Vert, mais sur cette musique, ces battements, ces pulsions, les femmes se sont mises à danser, une sorte de musique de transe, et donc de danse de transe, de corporalité, un peu comme le sabar du Sénégal, et inventer toute une poésie de satire, de moquerie contre les défauts, contre les hommes qui sont des papillons amoureux, etc. C'est ce qui a donné la tradition du batouk. Les Cap-Verdiens, par exemple, ont une alliance cap-verdienne, une casama et une maison mère qui est très importante, qui permet aux Portugais de venir entendre ces musiques. Pas tellement le batouk qui reste quand même dans les quartiers périphériques, parce que ça c'est une musique très populaire, surtout des Noirs de Santiago. Bon, mais à la Casamay, en plein centre de Lisbonne, près de la Rotunda, d'où Marquês de Pombal, là on peut manger la cachupa, on peut danser à 13h, on peut rencontrer les Cap-Verdiens. C'est des lieux comme ça qui sont importants pour la mixité des sentiments.
Lisbonne, dans la ville noire, fin. Remerciements à Jean-Yves Loud pour nous avoir accompagnés dans ce voyage et autorisé l'emprunt du titre de son roman, publié donc en 2003 chez Actes Sud. Remerciements aussi à celle qui nous a permis de rencontrer tout le monde à Lisbonne et aussi à assurer les traductions sur place, Paula Nascimento. Sur les docks, Olivier Berotte, Yvon Croisier, Alexandre Hérault.
À bientôt et
bon voyage.
Au revoir.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous changer les idées, bibliographie, liens, nous podcaster pour oublier ou nous réécouter pour passer à autre chose, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Et n'oubliez pas, toute cette semaine encore, vous pouvez visionner gratuitement The Horse, le film de Charles Burnett sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire. Et demain, deuxième épisode, le 25 avril pour toujours.